suite. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Les forces vives de Guinée, grande plateforme d'opposition et de groupes de la société civile, appellent leurs membres à se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition. Depuis le 31 décembre dernier, ces forces vives ne reconnaissent plus la légitimité de la junte militaire au pouvoir. Un influenceur burkinabé qui disparaît en Côte d'Ivoire, son nom, Alain Traoré, c'est sa femme, sans nouvelles, qui a lancé l'alerte. On lui reprocherait ses liens avec les bataillons d'intervention rapide de la communication des sympathisants de la junte burkinabé. Et puis, quelles conséquences économiques au Mali après l'annonce de la suspension des activités du Canadien Barrick Gold sur le site de Loulo-Gounkoto? Plus de 8000 employés à l'arrêt et peut-être une attractivité ébranlée auprès des investisseurs étrangers. Le début de cette édition en Guinée, donc, où les forces vives, cette plateforme qui regroupe des partis d'opposition, mais aussi des organisations de la société civile, appelle ses membres à, je cite, se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition. Un appel lancé hier soir et qui fait suite à la décision de la plateforme de ne plus reconnaître, à partir du 31 décembre 2024, la légitimité de la junte militaire actuellement au pouvoir. Elle exige le départ du CNRD et la mise en place d'une transition dirigée par un gouvernement civil. Je vous propose d'écouter Souleymane Souza Konaté. C'est le porte-parole de la coalition d'opposition ANAD, Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, l'une des composantes des forces vives de Guinée.
Pour nous, c'est une question de principe et de cohérence. Nous avons clairement dit qu'à partir du 31 décembre 2024, si le CNRD n'organise pas les élections, la junte ne sera plus légitime pour conduire la suite de la transition dans notre pays et qu'on allait exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour sur l'agenda le retour à l'ordre constitutionnel. Pour nous, après la manifestation du 6 janvier 2024, qui sont soldées par 3 morts et des dizaines d'arrestations, la décision a été prise au niveau des forces vives de Guinée pour inviter nos représentants à quitter les organes de la transition et à rejoindre, n'est-ce pas, les différentes initiatives au niveau des états-majors des forces vives de Guinée pour continuer la contestation jusqu'à ce que les militaires acceptent de revenir aux fondamentaux d'une transition.
Concrètement, ça veut dire quitter le Conseil national de transition, par exemple ?
Oui, quitter le Conseil national de transition, oui, c'est bien ça.
D'autres institutions sont concernées ?
Tous les organes de la transition, il y a certains qui avaient été nommés à certains postes de responsabilité dans l'administration publique. Aujourd'hui, nous les invitons à quitter leur poste et à rejoindre la dynamique de la contestation pour contraindre le CNRD à revenir aux fondamentaux de la transition et à surtout respecter les engagements qui ont été pris au lendemain du 5 septembre 2021.
Souleymane Souza Konaté, porte-parole de la coalition guinéenne d'opposition ANAD. Il était au micro de David Baché. La Côte d'Ivoire et l'arrestation d'un influenceur burkinabé, Alain Traoré, surnommé Alino Faso, fervent soutien du régime militaire à Ouagadougou et du capitaine Ibrahim Traoré. Interpellation qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Plus de détails sur cette affaire avec Binta Diagne.
Tout est parti des messages d'alerte postés par Sena Traoré sur les réseaux sociaux. Cette femme affirme sur Facebook que son mari a disparu. Elle dit avoir fait le tour des commissariats de police d'Abidjan en vain. Ce mercredi, le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, assure qu'Alain Traoré a été arrêté vendredi dernier selon la procédure légale.
Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Il a été arrêté en bonne et due forme. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours.
Ce citoyen d'une quarantaine d'années est installé en Côte d'Ivoire comme opérateur économique et comme communicateur. Selon nos sources, on lui reproche notamment ses liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, des sympathisants de la junte burkinabé très actifs sur les réseaux sociaux et qui relaient la propagande des militaires au pouvoir. L'enquête est toujours en cours. Elle devrait notamment permettre d'établir si des poursuites judiciaires seront enclenchées contre lui. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le Burkina Faso, une attaque terroriste sur un convoi entre Dori et Seitenga a eu lieu samedi après-midi, on l'a appris hier. Une colonne de gendarmes et de militaires escortant des transports civils a fait l'objet d'une embuscade près de la commune de Kachirga. On est non loin de la frontière nigérienne. Ce sont les forces de sécurité burkinabé qui ont payé le plus lourd tribut avec 4 gendarmes et 14 militaires tombés sous les balles des djihadistes. On dénombre aussi de sources sécuritaires 3 civils tués. Un contact local évoque plutôt 6 civils tués. dont 2 Nigériens et 14 disparus. Les prévisions du ministère malien de l'économie et des finances. Les autorités s'attendent à plus $1 milliard de recettes minières d'ici à la fin du mois de mars. Une annonce quelques jours après une saisie de 3 tonnes d'or sur le site de Loulo Gounkoto, site sur lequel opère Barrick Gold, le groupe minier canadien, qui un peu plus tôt dans la semaine a annoncé la suspension de ses opérations sur place. En cause, ce bras de fer financier qui dure depuis des mois entre le gouvernement malien de transition et la société. Et Alexis Bédu, les conséquences pourraient être négatives pour l'économie du pays.
L'économie locale sera nécessairement fragilisée par cette décision. Barrick Gold, c'est plus de 8000 employés sur le complexe orifère de Loulo Gounkoto, sans compter les nombreux sous-traitants. La méthode utilisée par les autorités maliennes, arrestation, saisie des stocks et blocage des exportations, n'a pas été la bonne, d'après Mamadou Sinci Koulibaly, opérateur économique et ancien président du Conseil national du patronat du Mali.
Moi, je pense fortement qu'il y a eu incompréhension. Je pensais qu'il fallait s'asseoir sur la table, négocier, il faut donner un préavis si l'autre partie ne veut pas, et rentrer en négociation et non pas utiliser la force.
L'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers pourrait aussi être ébranlée par cet épisode Barrick Gold.
Ils sont tous aux aguets. Il y en a qui devraient ouvrir des mines au Mali en 2025, mais je pense qu'ils vont déménager en Côte d'Ivoire. Il y a des miniers de classe B aussi qui sont en train de partir.
La Côte d'Ivoire en principal concurrent du Mali, avec notamment ses 2 importants gisements d'or, Lafigué et plus progressivement Koné, qui entreront en production cette année.
L'actualité en bref, 246 survivants remontés de la mine d'or abandonnée de Stilfontein en Afrique du Sud depuis le début de semaine. Ces mineurs illégaux étaient bloqués à plus de 2 km sous terre depuis des mois. 78 corps sans vie ont également été remontés par les professionnels. L'opération est terminée, selon la police, mais une dernière descente doit être effectuée ce jeudi pour s'assurer que plus personne ne se trouve sous terre. Une visite d'état de 2 jours pour le président angolais João Lourenço en France. Il doit être reçu par son homologue Emmanuel Macron. Et avant, un déjeuner de travail à l'Élysée ce midi et un dîner d'État ce soir. Au menu des discussions entre Paris et Luanda, la situation dans la région des Grands Lacs et surtout celle dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que l'Angola tente toujours de jouer les médiateurs entre Kinshasa et Kigali. L'Angola, qui doit prendre dès le mois de février la présidence tournante de l'Union africaine, des dossiers économiques doivent également se retrouver sur la table, avec la finalisation de contrats et de financements, notamment dans le domaine de l'eau ou encore des satellites. Faustin Archange Touadéra se trouve, lui, depuis hier en Russie. Le président centrafricain doit s'entretenir ce jeudi avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Visite qui intervient après la levée totale de l'embargo sur les armes, mais aussi après la levée des restrictions concernant le secteur du diamant. Les 2 dirigeants doivent évoquer l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commerciaux, économiques, humanitaires, tous les domaines, y compris le très sensible sécuritaire, fait savoir le Kremlin. Et puis au volet judiciaire de cette édition, l'ouverture hier à Lomé du procès dit du Trading Gate, dans lequel on reproche à plusieurs responsables de sociétés placées sous mandat de dépôt depuis 2021 de s'être prêtées à des activités illégales. De nombreuses victimes venues de tout le pays se sont rendues devant le tribunal de Lomé en espérant revoir leur argent perdu. La correspondance de Peter Sassou-Dogbé.
Ils sont 13 dans le box des accusés, 20 sont toujours en cavale. Pour la plupart des responsables de sociétés de placements illégales au Togo ou leurs collaborateurs, ils sont accusés d'être impliqués à divers niveaux dans une vaste opération d'escroquerie. Des milliers d'épargnants et d'investisseurs victimes pour un préjudice estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon la présidente du collectif des victimes de trading, Ayaba Sada, sa seule organisation représente 3000 personnes qui ont perdu 5 milliards de francs CFA. Ouvriers, fonctionnaires, cadres et militaires ont mordu à la meçon de cette pyramide de Ponzi. Des promesses de gains de 50, 100 voire 300%. À la fin, nombreux sont ceux qui n'ont rien obtenu. Conséquence de cette perte, confie la présidente du collectif, des victimes devenues malades, endettées, des couples disloqués faute d'argent. Venus au tribunal mercredi, tous espèrent un remboursement de leurs capitaux et une éventuelle indemnisation. Peter Sassou-Dogbé, Lomé RFI.
Je précise que le procès a été renvoyé au 13 février. Le Togo, vous en parlez avec Juan Gomez dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité.